Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Depuis une vingtaine d'années, les pays émergents cherchaient à doper leur développement économique en se dotant d'une industrie nucléaire civile capable d'apporter de la croissance et une certaine indépendance énergétique. Les industriels ont suivi le mouvement en proposant des solutions clés en main à de nombreux pays à travers le monde. Mais l'accident de la centrale de Fukushima au Japon a brutalement stoppé cette expansion, à l'exception peut-être du Moyen-Orient, où subsistent des ambitions dans ce domaine. C'est en tout cas ce que rapporte notre partenaire, la revue Moyen-Orient, dans son dernier numéro consacré au nucléaire. Pour en parler, nous avons invité l'un des auteurs, la spécialiste des questions de non-prolifération et de dissuasion, Emmanuel Maître. Un entretien que vous pouvez réécouter sur notre site www.rfi.fr ou podcaster sur notre appli Pure Radio. Bonjour Emmanuel Maître.
Bonjour Éric Bataillon.
Chargé de recherche à la Fondation pour la Recherche Stratégique, vous êtes spécialiste des questions de non-prolifération nucléaire et de dissuasion, et vous signez dans le dernier numéro de notre partenaire, la revue Moyen-Orient, un article pointant le jeu des grandes puissances concernant le nucléaire dans cette région. Alors un premier constat, Emmanuel Maître, si l'industrie nucléaire n'est plus en expansion dans le monde après l'accident de Fukushima au Japon en 2011, alors ce n'est pas le cas pour le Moyen-Orient où les projets de construction semblent se multiplier.
Oui, alors c'est vrai que c'est une des régions où le nucléaire civil a tendance à résister. Alors, il faut nuancer un tout petit peu au sens où par rapport aux ambitions qui avaient été affichées il y a une dizaine d'années et encore d'ailleurs à certains programmes sur le papier qui sont très ambitieux, les constructions réelles sont quand même assez modestes, on n'est pas sur un nombre de réacteurs faramineux, mais néanmoins ça fait partie des régions où il y a encore vraiment un appétit pour le nucléaire, des nouveaux États qui veulent rentrer dans la course. C'est surtout ça d'ailleurs peut-être la caractéristique, c'est des États qui n'avaient pas du tout de centrale aujourd'hui et qui veulent devenir des puissances nucléaires civiles.
Alors quels sont les pays dans cette région qui veulent se doter de centrales nucléaires civiles ?
Alors là, pour l'instant, donc on a des centrales en construction en Turquie, avec le projet de Akuyu qui a démarré en 2008, aux Émirats Arabes Unis avec la centrale de Baraka depuis 2012, en Iran, bien sûr, l'Iran étant le seul pays pour l'instant où il y a un réacteur qui est en fonctionnement. Il y a également des projets, alors là pour l'instant la construction n'a pas commencé, mais des projets relativement avancés en Égypte. La Jordanie avait aussi des ambitions qui ont été un peu revues à la baisse, mais pour lesquelles elle continue d'être intéressée. Et puis l'Arabie Saoudite, dont on parle beaucoup, qui a des projets très ambitieux. Ils ont annoncé en 2018 vouloir construire 16 réacteurs d'ici à 2030, mais pour l'instant il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas de contrat effectif qui a été signé.
Qu'est-ce qui motive les pays de la région pour se doter de ces centrales nucléaires ?
Alors, pour beaucoup, je pense par exemple à l'Égypte, c'est des projets qui sont en fait très anciens. C'est des ambitions qui datent vraiment, je dirais presque des années 70. Il y a toujours eu le fait que le nucléaire, c'était la modernité, c'était accéder à des technologies de pointe. Le fait que ce sont des États qui ont des besoins énergétiques, bien sûr, importants, pour différentes raisons, parce que leurs modèles de développement sont assez énergivores, parce qu'ils ont besoin d'eau potable qui nécessite également beaucoup d'énergie dans certains cas, parce que certains sont producteurs, bien sûr, de pétrole, et c'est toujours un peu le paradoxe, mais souhaitent plutôt consacrer ce pétrole à l'exportation que le brûler eux-mêmes pour produire de l'énergie. Dans tous les cas, il y a un besoin énergétique et ça semble être pour eux la meilleure solution.
Oui, ce dernier cas, c'est sans doute le cas de l'Arabie Saoudite qui voudrait avoir sa production d'énergie électrique issue du nucléaire, mais voudrait garder son exportation pétrolière.
Oui, tout à fait. Sachant que pour l'Arabie Saoudite, il y a sans doute aussi le fait qu'elle ne veut pas être un des seuls pays ou en retard sur cette technologie par rapport, par exemple, à l'Iran, dont elle critique très régulièrement le programme nucléaire.
Alors, vous disiez que seul l'Iran a une centrale actuellement en activité, c'est à Boucher.
Oui.
Est-ce un signe de l'avancée de ce pays dans ce domaine ou plutôt du retard de ses voisins régionaux ?
C'est un vestige historique, je dirais, de la politique nucléaire du Shah, qui avait vraiment voulu très tôt doter son pays d'installations nucléaires, qui avait pu le faire grâce au soutien d'un certain nombre de pays.
Et notamment la France.
Voilà, donc l'Iran a réussi à faire ça, les autres pays se sont intéressés plus tardivement, pour différentes raisons qui peuvent être politiques aussi, scientifiques et technologiques. L'Iran, c'est vrai, un réservoir également de chercheurs, d'ingénieurs sur ces sujets-là, que n'ont pas forcément tous les pays de la région.
Peut-on néanmoins parler d'un marché moyen-oriental attractif pour les grands industriels fournisseurs de cette énergie aujourd'hui?
Alors attractif, ça se discute, ça dépend des critères des fournisseurs. D'un point de vue financier, c'est un marché qui est assez douteux quand même, et on a vu d'ailleurs que beaucoup d'industriels étaient assez méfiants avant de s'engager. On pense à des projets par exemple comme l'Égypte, pour lequel la rentabilité est loin d'être évidente, la Jordanie qui s'y est renaclée un petit peu pour des raisons financières par rapport à son programme, l'Iran évidemment, des risques politiques énormes qui font que c'est très difficile de parler de rentabilité économique, et même la Turquie où, sur lequel pèse un certain nombre d'incertitudes, les projets prennent du temps, il y a beaucoup de contraintes liées à l'environnement réglementaire, etc. Du coup, d'un point de vue vraiment purement commercial, ce sont des projets très compliqués sur lesquels, en fait, beaucoup de pays, je pense à l'Égypte, n'ont pas les moyens de financer en amont. Donc, ils privilégient des modèles commerciaux où la rentabilité se fait sur un temps très long. Et qui dit temps très long dit potentiellement risque. Et du coup, c'est pourquoi, en fait, on s'aperçoit que Rosatom, le fournisseur russe qui est très lié à l'État russe, a une part prédominante de ces marchés-là parce qu'il est capable d'assumer un risque qu'une entreprise purement commerciale, qui n'est pas étatique, trouverait très très difficile à assumer. Je pense à Framatome, à d'autres, Westinghouse, etc.
Justement, est-ce que les stratégies des fournisseurs d'usines nucléaires sont différentes selon leur nationalité? Vous parlez des Russes, mais il y a aussi les fournisseurs américains, il y a les Coréens, il y a les Chinois maintenant, les Français. Stratégies différentes?
Oui, alors on s'aperçoit que, en effet, les fournisseurs peuvent avoir des stratégies différentes. Alors, de toute manière, vendre une centrale nucléaire, surtout à un État comme les États du Moyen-Orient, il y a toujours des considérations politiques qui sont importantes. Néanmoins, il y a quand même des fournisseurs pour lesquels c'est plus important que d'autres. On voit bien que Rosatom, par exemple, signe des contrats pour lesquels la rentabilité économique est loin d'être avérée. On peut même s'attendre à ce qu'ils perdent de l'argent au final. Donc, dans ce cadre, c'est sans doute vraiment la relation politique, le fait pour la Russie de s'implanter stratégiquement, d'être un partenaire de premier rang, de faire valoir ses technologies, d'avoir des ingénieurs sur le terrain, d'être présent sur l'ensemble du cycle de vie de la centrale, donc peut-être une cinquantaine d'années pour certains cas, qui va jouer. Pour des partenaires qui n'ont pas un soutien de l'État aussi fort au niveau financier, je pense à Framatome, en effet à KEPCO pour la Corée du Sud, c'est difficile, voire impossible, d'accéder à de telles conditions de financement. Parce que voilà, Rosatom accepte de fournir la centrale et de se rémunérer ensuite sur l'éventuel gain, bénéfice qu'elle va opérer. C'est quelque chose que ne pourraient pas se permettre commercialement des entreprises qui sont moins liées à la puissance étatique.
Et puis il faut peut-être offrir aussi un package, comme on dit dans un mauvais anglais, total, c'est-à-dire de la conception jusqu'à l'exploitation.
Voilà, conception.
Et le traitement des déchets aussi.
Exploitation, exactement, fourniture du combustible, récupération du combustible. C'est ce qu'a proposé Rosatom, d'ailleurs, en Turquie, à Kuyu. C'est des contrats complètement intégrés où, en fait, le constructeur est également l'opérateur de la centrale. Mais même pour Rosatom, en fait, ça devient difficile. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de critiques en Russie de ce type de modèle d'un point de vue économique, parce que c'est des modèles qui ne sont pas du tout rentables d'un point de vue financier.
Est-ce que, malgré tout, pour vous, le Moyen-Orient est devenu un terrain de compétition sur le plan nucléaire pour tous les producteurs?
Alors c'est clairement un terrain d'intérêt parce que, étant donné la sensibilité de la région d'un point de vue sécuritaire, les alliances stratégiques, l'importance pour les États d'avoir des relations extrêmement fortes, je pense aux États-Unis qui ont toujours voulu avoir un pied dans la région, mais également la France, la Russie, maintenant la Chine, etc. C'est difficile d'abandonner complètement la région à un adversaire ou concurrent. Donc on passe très rapidement du niveau commercial au niveau politique, voire stratégique. Après, vraiment, en regardant un petit peu les contrats qui ont pu être signés, les discussions en cours, le politique semble plus important que le commercial, parce que d'un point de vue commercial, comme je le disais, ce n'est pas des marchés qui sont forcément très attractifs.
Vous écoutez Orient Hebdo sur RFI. Nous essayons de comprendre quel est le jeu des grandes puissances au Moyen-Orient concernant le développement de l'industrie nucléaire civile avec notre invité Emmanuel Maître, spécialiste des questions de non-prolifération nucléaire et de dissuasion. Alors le Moyen-Orient est devenu, vous l'avez dit, un terrain de compétition sur le plan nucléaire. On a parlé des stratégies des différents fournisseurs potentiels de cette industrie. comment se fait le choix des fournisseurs par les pays hôtes ? Bon, on peut supposer qu'il y a des liens privilégiés qui se tissent au fil du temps entre les fournisseurs et ceux qui sont fournis.
Pour certains projets, je pense par exemple à celui des Émirats Arabes Unis à Baraka, le critère du prix semble vraiment être quelque chose qui a pu jouer, qui a favorisé le Sud-Coréen KEPCO avec un projet vraiment qui était très attractif par rapport à d'autres offres qui avaient été faites. Mais dans un certain nombre de cas, c'est d'autres critères qui vont jouer aussi. Alors, pour la Turquie, pour l'Égypte, ce qui a pu être important, c'est que Rosatom présentait justement des offres très complètes et avec des conditions de financement extrêmement intéressantes où il n'y avait pas forcément à payer immédiatement le coût de la construction. Donc, c'est vraiment des contrats qui sont très intéressants. Après, il y a aussi des critères plus politiques et on le voit particulièrement sur le cas de l'Arabie Saoudite. Par exemple, l'Arabie Saoudite a pu déclarer qu'elle voulait pas travailler avec le Canada parce que le Canada était très critique de sa politique de droits de l'homme. Et donc, il y a potentiellement un risque à un moment, le pays décide de suspendre sa coopération pour des motifs politiques. C'est la même chose avec les États-Unis, bien sûr. Et le fait que le Congrès américain puisse suspendre un accord de coopération avec l'Arabie Saoudite, ça fait qu'un pays comme ça va sans doute être très, très réticent à travailler avec les États-Unis parce que on l'a vu avec l'Iran. Ce sont des marchés qui peuvent être interrompus très rapidement pour des raisons politiques.
Alors justement, est-ce que ça ne veut pas dire que, d'une certaine façon, les pays démocratiques sont pénalisés par rapport à leurs concurrents plus totalitaires, si je puis dire ?
Ou en tout cas des concurrents qui discernent les aspects économiques des aspects politiques. C'est vrai que ça joue. D'ailleurs, c'est intéressant. Le cas de Rosatom est intéressant parce que, donc, ils travaillent en Turquie. On sait que les relations russes et turques ont été très mauvaises pendant un certain temps. Il y a eu des tensions très fortes entre les deux États. Et pour autant, la Russie a voulu continuer absolument de travailler, n'a absolument pas remis en cause le contrat d'Akuyu, justement pour montrer que pour elle, il y a les questions politiques d'un côté, mais qu'elle est un partenaire commercial fiable, contrairement à d'autres pays, bien sûr, elle pointe du doigt les États-Unis. Alors, c'est vrai que ça peut jouer. La deuxième question qui joue également, c'est que les États-Unis, mais de manière générale, maintenant, leurs partenaires occidentaux, sont très vigilants sur les questions de non-prolifération et donc d'utilisation des technologies qu'ils fournissent à des États tiers. Et ont des exigences que n'ont pas forcément d'autres États, comme bien sûr la Russie, la Chine ou d'autres. Et donc, se mettent un petit peu hors jeu du fait même de leurs exigences.
Alors justement, nous avons donc parlé jusque-là du nucléaire civil, mais vous abordez la question sous-jacente du nucléaire militaire et l'acquisition de cette technologie est forte dans la région. Est-ce que justement les fournisseurs doivent faire très attention à cela ? Comment réagissent-ils et comment les États régionaux, eux, se positionnent par rapport à leurs fournisseurs sur cette question-là du passage éventuel du civil au militaire ?
Alors pour les fournisseurs, il y a eu une prise de conscience qui s'est faite progressivement depuis les années 70 et maintenant qui est vraiment très partagée, qui est qu'il faut absolument s'assurer que les technologies qui sont fournies, à la fois d'un point de vue des installations, du combustible qui va être vendu pour faire tourner les centrales, des technologies en elles-mêmes, du savoir immatériel, doivent absolument être utilisées pour le civil et absolument pas détournées pour des programmes militaires. Et donc, il y a plusieurs choses. Il y a des règles internationales, bien sûr, qui jouent, le contrôle de l'AIEA, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, qui va garantir que le programme est bien civil. Mais un certain nombre de pays ont des demandes supplémentaires par rapport à ce cadre international. Les États-Unis, par exemple, et l'ont fait notamment dans leur accord de coopération avec les Émirats Arabes Unis, d'avoir des exigences supplémentaires. Donc, ils vont, par exemple, interdire que le pays puisse enrichir lui-même l'uranium qui va être ensuite utilisé dans les centrales, ou puisse retraiter le combustible usagé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc les États-Unis n'ont pas travaillé directement avec les Émirats Arabes Unis, puisque ce sont les Sud-Coréens qui construisent la centrale, mais les Sud-Coréens utilisent des technologies américaines et donc sont obligés d'avoir l'aval du Congrès américain des États-Unis pour cet accord.
D'ailleurs, la position de la Corée du Sud est intéressante, justement, puisqu'elle ne va pas forcément politiquement sur le terrain des droits de l'homme et donc peut obtenir des contrats localement avec certains pays. Mais est-ce que cette position des fournisseurs qui sont extrêmement attentifs est suffisante pour ne pas empêcher certains de ces pays, et lesquels, de passer du civil au militaire ?
Alors, je dirais que l'attention des fournisseurs, donc, elle est plus ou moins importante. Elle est plus importante aux États-Unis, ce qui fait d'ailleurs que beaucoup se disent que c'est peut-être contre-productif et que du coup, les États-Unis n'ont pas de prise dans la région puisque personne ne veut travailler avec eux parce qu'ils sont justement trop stricts. Mais même un pays comme la Russie est relativement attentif. On le voit avec la centrale de Bouchehr en Iran où tous les combustibles usagés sont renvoyés en Russie. Ce sera également le cas, a priori, en Turquie, même si ça a un certain nombre d'incertitudes. Donc, tous les fournisseurs ont une certaine attention. intervention qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un risque imminent dès la construction d'une centrale à ce que les choses soient détournées vers un programme militaire. Normalement, les garanties à la fois des fournisseurs mais aussi de l'AIEA doivent permettre d'éviter ça et il n'y a a priori pas de doute sur les programmes qui sont en cours. Après, évidemment, plus on a d'exigences, moins le risque est important. Si on interdit un État de, ou si un État s'engage à ne pas créer lui-même de combustible, enrichir lui-même l'uranium, évidemment, c'est une technologie qui ne possède pas, une technologie qui ne pourra pas utiliser potentiellement pour un programme militaire. Donc, selon le niveau d'exigence, on a plus de garanties. Après, comme je disais, certains estiment que ça peut être contre-productif dans la mesure où l'Arabie Saoudite l'a fait savoir. Il est hors de question qu'elle s'engage à ne pas retraiter, à ne pas enrichir. Pour elle, c'est sa souveraineté nationale. Et donc, ça crée vraiment un conflit après au niveau politique de savoir si ces accords sont contraires à la souveraineté d'un État.
Est-ce que, selon vous, le cas iranien est peut-être le verrou qui permet aujourd'hui de maintenir une région où il n'y a qu'un seul État, semble-t-il, qui est l'arme nucléaire, et que si l'Iran venait à acquérir cette technologie nucléaire militaire, le verrou sauterait et donc d'autres pays dans la région s'engouffreraient dans la brèche.
Il est certain que des États comme l'Arabie Saoudite ont indiqué que si l'Iran devenait une puissance nucléaire militaire, l'Arabie Saoudite en ferait autant. Alors après, entre les déclarations et la qualification d'une capacité, il peut se passer beaucoup de choses, c'est très compliqué. L'Iran, ça fait 40 ans, 50 ans qu'ils s'intéressent aux questions nucléaires. Ils ont construit des installations clandestines qui ont pris également beaucoup de temps. Donc c'est quelque chose de longue haleine. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, même si la Corée du Sud, même si Rosatom, peu importe, lui vendait une centrale nucléaire, elle ne serait pas en mesure du jour au lendemain de construire un programme militaire. Elle en a sans doute les ressources financières, mais après, il y a un coût politique très important à payer, celui d'être d'une certaine manière exclu de la communauté internationale. Il y a des compétences technologiques à faire. Il faudrait construire des installations d'enrichissement. Je ne pense pas qu'aucun État vendrait des installations d'enrichissement, donc il faudrait se le constituer soi-même. Donc il y a quand même de nombreux obstacles à ce qu'un de ces États emboîte le pas potentiel d'un Iran qui développerait l'arme nucléaire.
Le fait que les États-Unis soient sortis de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran, c'est un danger aujourd'hui ou ça reste un épiphénomène que l'on peut contraindre sans qu'il dégénère ?
Alors, la sortie de l'accord nucléaire avec l'Iran par les États-Unis, très clairement, ça a enclenché une dynamique extrêmement négative, avec un certain nombre de décisions qui ont été prises par l'Iran, dont la dernière, le 5 janvier dernier, en réponse à ce qu'ils considèrent de manière assez légitime comme une violation américaine. La dernière déclaration du 5 janvier, c'est que l'Iran ne se tenait plus tenu par les obligations de l'accord nucléaire, obligations qui contraignaient notamment la capacité de l'Iran à produire de l'uranium enrichi, qui indiquait que cet uranium ne devait pas être enrichi au-delà d'une certaine limite, qu'elle ne devait pas avoir plus de certaines quantités, etc., etc. Donc clairement, au fur et à mesure où l'Iran va faire sauter les différentes contraintes de l'accord, elle va potentiellement se rapprocher d'une capacité militaire, ou en tout cas, le temps qu'il lui faudrait pour acquérir une capacité militaire, si la décision était prise au plus haut niveau, va se réduire. C'était l'objectif de l'accord. L'accord avec l'Iran, son objectif, c'était de faire en sorte qu'entre le moment où l'Iran décide d'avoir l'arme et le moment où elle l'est, il y ait au moins un an. Aujourd'hui, depuis, ça fait maintenant 9 mois, ce temps diminue, alors pas drastiquement, on est encore potentiellement autour d'une dizaine de mois, enfin c'est très difficile à calculer, mais en tout cas, forcément, il y a un certain nombre de garanties qui cèdent de ce point de vue-là.
Que faudrait-il faire pour contrer cette inéluctable marche vers
l'acquisition ? Pour l'instant, il n'y a rien d'irréversible qui a été fait. D'une part, l'AIEA a toujours la possibilité de vérifier ce qui se passe sur place. L'Iran est toujours relativement transparent sur les matières qu'il possède, ou etc. Donc on peut contrôler un petit peu où en est le pays. Rien d'irréversible au sens où l'Iran laisse la porte ouverte. C'est leur politique actuelle et on peut espérer que ça va durer. En tout cas, l'Union européenne, la France, d'autres partenaires, la Russie, etc. essaient de convaincre l'Iran de continuer dans ce sens-là, de dire on ne sait pas quelle sera la prochaine administration à Washington. Si les choses changeaient, on pourrait faire demi-tour, revenir au seuil qui avait été agréé en 2015. En tout cas, apparemment, on ne peut pas dire aujourd'hui que la décision a été prise à Téhéran de développer une arme nucléaire. Tant que cette décision n'est pas prise, on peut penser que ce sera possible de revenir à des seuils qui étaient jugés acceptables par les signataires de l'accord.
Très bien. À suivre donc.
Oui.
Merci Emmanuel Maître.
Merci Éric Bataillon.
Chargé de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, vous êtes spécialiste des questions de non-prolifération nucléaire et de dissuasion. Votre article « Nucléaire au Moyen-Orient, le jeu des grandes puissances » point d'interrogation, est à lire dans le numéro 45 de la revue Moyen-Orient. Orient Hebdo, mise en onde et réalisation Mathias Golshani. On se retrouve avec plaisir samedi prochain. Passez une bonne semaine, fidèle à la Radio Mondiale. Tout de suite le journal.